Radio Esperanza.
Et donc nous voilà à l'abordage avec les jeunes de Egologique. Bienvenue à Jean-Adrien et Violette. Comment ça va ?
Super !
Nickel.
Ça va, ça va.
Alors Esperanza, première fois ?
Ouais, pour moi.
Pour moi aussi.
Et Violette ?
Ah ben non, ça va au moins 5-6 ans, je crois.
Hier donc.
Voilà, exactement.
Alors j'ai la grande chance d'accueillir ici une nouvelle version de podcast. Donc ce sont des podcasts qui sont faits par les jeunes, comme je l'ai dit, de Egologique. Nous avons une heure d'émission et moi je sers juste de maïzena parce que Captain Kiki lâche l'antenne et c'est Violette qui va vous dire ce qu'on va faire aujourd'hui.
Ouais, super.
Bienvenue.
Merci. Donc on est là pour présenter un podcast qu'on a réalisé avec des jeunes autour des thématiques proposées aussi par Esperanza cette année. Donc on vous laissera écouter le podcast dans sa première partie où Jean et Ariane proposent des réflexions autour de thématiques comme l'appropriation culturelle, la question des sous-cultures et dans une... Donc après cette première partie d'écoute, on a proposé cette fois-ci de se challenger un peu dans nos idées avec des professionnels du secteur qui sont présents au Village des Possibles, avec donc trois super invités, deux dans la première partie et une dans la deuxième partie. Le but, c'est un peu de redéconstruire à nouveau nos idées par rapport à notre projet initial. Sinon, Egologique, c'est une organisation de jeunesse qui propose des espaces laboratoires créatifs citoyens à des jeunes de 3 à 30 ans, dont toute la fédération Wallonie-Bruxelles.
Quelque chose à rajouter, les gars ?
Non,
absolument pas.
Mais comme vous êtes taiseux, les jeunes radioteurs, c'est franchement, ça m'étonne.
Ouais.
Ok. Bah, je sais pas, on devait se présenter ou pas ?
Ouais.
Okay.
L'antenne est à vous.
Okay,
amusez-vous à l'abordage.
Moi alors c'est Adrien. Voilà, j'ai été attrapé par Violette pour son podcast pour Esperanza. Et voilà, en fait on s'est posé entre potes et Violette, mais qui est aussi
podcast.
Du coup notre pote entre podcast. Et voilà, on a parlé de thématiques qui étaient plutôt intéressantes, vraiment très intéressantes en fait. Et en fait, on n'a pas abordé non plus toutes les thématiques, mais c'était le truc qui était chouette. Ouais, je me perds un peu. Mais du coup, c'était vraiment génial. Et voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Jean, de ce qu'on a fait ensemble ?
Moi, je pensais que c'était vraiment très intéressant de juste s'exprimer sur des sujets et d'être pris un peu au sérieux, pour une fois. Enfin, voilà.
Toujours.
Et vous avez quel âge ?
Moi, j'ai 17, 18 demain.
Moi, 20 ans.
Ok.
Papa, tu vas venir faire ton anniversaire avec nous.
Pas
parce
du
que
tout.
Radio Esperanza fête ses 20 ans demain.
Je dois vraiment surveiller un chien, donc je peux pas le dire. C'est Adrien.
Voilà, et donc pour la première partie, on accueille Philippe.
Thomas.
Je sais pas, Philippe Thomas. T'as une tête à s'appeler Thomas.
Philippe Thomas, oui, comme le roi, évidemment.
Thomas du Musée du Capitalisme. Qui est aussi une organisation de jeunesse comme nous et qui ont un angle d'analyse de la société qui nous semblait intéressant pour proposer des références qui vont un peu aller croiser nos réflexions. Et les gars, vous avez invité deux autres invités.
Oui. Donc moi, j'ai invité Inès. Inès, vas-y, présente-toi. C'est peut-être plus facile que ce soit toi qui le fasse.
Ce sera clairement plus facile. Donc... Moi, je suis Inès, du collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations. Et nous, on travaille sur la question de la mémoire coloniale, le fait de travailler sur la propagande coloniale et de déconstruire en fait tous les préjugés qui découlent de la période coloniale et de questionner le racisme aujourd'hui en Belgique.
Et Jean, t'as invité ?
Oui.
Quelqu'un ?
Quelqu'un, oui.
Qui est ?
Moi, je m'appelle Gloria, j'ai 23 ans et je suis étudiante en cinéma et je fais partie du collectif Média Irruption, qui est un média du coup pas mal à gauche.
Génial. Alors le but, c'était de... Nous, on a réfléchi un peu entre nous et pour sortir de cet entre nous, on invitait d'autres que nous avec chacun issu d'associations différentes et c'était le but d'écouter ce podcast et puis de rééchanger là-dessus.
Dimitri à la technique, tu nous envoies la sauce.
Critique. Le plus beau, c'est qu'on peut partager les cultures.
Un podcast des jeunes dégologiques.
Hello, je m'appelle Ariane et avec Adrien, Jean et Diego, on s'est retrouvés autour d'un verre pour discuter de thématiques qui avaient été proposées par le festival Esperanza à l'association égologique dont nous faisons partie. On s'est donc retrouvés pour parler néocolonialisme, appropriation culturelle et privilèges. Mais au final, on a aussi dérivé sur des sujets tels que l'art, le capitalisme, les dessins animés, la sous-culture, la sociologie, la consommation, etc. Durant 2 heures, on a essayé de comprendre ensemble le monde dans lequel on vit et on espère qu'à toi aussi ça te donnera envie de t'interroger et de te décentrer. On te souhaite une bonne écoute.
La culture jeune est-elle une sous-culture ?
Pour moi, dans un monde comme le nôtre aujourd'hui, très mondialisé, ce qui est le plus beau, c'est qu'on peut partager les cultures et en apprendre beaucoup sur les autres cultures parce qu'elles portent souvent des valeurs et des apprentissages, des savoir-faire qu'on n'a pas forcément chez nous. Et que c'est dommage parce que c'est vraiment se priver, c'est se limiter à une seule façon de fonctionner. Dans mon cadre familial, j'ai vraiment su voir ça en grandissant, qu'il y a des gens qui considéraient qu'il y avait des sous-cultures. Et au final, je trouve ça même choquant parce que moi, c'est des cultures qui m'intéressaient et qui m'intéressent toujours. De toute façon, dans l'histoire, notre culture, si elle se renouvelle, c'est parce que d'autres cultures sont importées, c'est parce qu'il y a de nouvelles choses qui entrent dedans. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Elle peut se renouveler, mais ça se fait souvent avec l'aide de nouvelles cultures, par exemple via l'immigration, surtout via l'immigration, par exemple. Après, au niveau de la sous-culture et des jeunes, c'est qu'il y a aussi ce côté-là avec les jeunes, que par exemple, la culture au niveau du rap, qu'on pourrait considérer une culture jeune pour certains, alors que le rap, ça commence à faire vieux, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus critiqué parce qu'on a des clichés là-dessus et que les gens qui ne s'intéressent pas au rap ne vont pas forcément s'intéresser, vont se limiter à une image. Vont par exemple peut-être se limiter à l'image de Jul, alors qu'on peut clairement voir d'autres rappeurs beaucoup plus profonds et beaucoup plus intéressants comme Alpha One ou même juste des rappeurs qui ont vraiment une image marquée, comme par exemple aux États-Unis, je pense à Tyler the Creator. On peut dire ce qu'on veut de lui, mais même à Kanye West, où il y a vraiment des recherches de création d'univers, qu'il y a vraiment quelque chose autour, et qu'on va aller vite juger ça, et que même, j'ai même parfois l'impression que quand nous, on va s'intéresser à des trucs plus de vieux, on va dire, on va même être pris pas au sérieux parce qu'on est jeune et qu'on ne peut pas comprendre ça parce que ce n'est pas notre époque.
Pour rebondir sur ce que Jean disait, en fait, moi je suis d'accord, j'ai l'impression que, comme il a dit, les vieux en fait, nous prennent, ils nous décrédibilisent un peu, nous en tant que jeunes, alors que pourtant c'est nous les adultes de demain et c'est important aussi qu'on puisse obtenir leur reconnaissance en fait. Pour qu'on puisse avancer en fait dans notre situation de crise actuelle quand même et qu'ils puissent nous soutenir dans ça en fait. J'ai l'impression qu'ils nous décrédibilisent dans notre culture de jeunes.
Et c'est quoi ta culture de jeunes ?
Comme Jean il a dit, le rap, les choses qui sont à la mode par exemple, oui les animés, les mangas, même au niveau de la mode et tout, les vêtements, streetwear et tout ça. Et j'ai l'impression qu'en fait ils comprennent pas, ils veulent pas comprendre et ils décrédibilisent ça. Souvent en disant oh c'était mieux avant ou des choses comme ça, alors que c'est pas forcément vrai, c'est juste nouveau en fait, et il faut qu'ils puissent s'adapter à la nouveauté aussi.
J'ai parlé de ça avec mon père, du côté cyclique de la culture, et au final je pense que ça démontre juste qu'il y a un schéma dans notre manière de vivre, notre manière de fonctionner, et que peut-être qu'on a ce besoin de se dire que nous, c'était mieux, qu'il y a ce côté de décadence, alors qu'au final, on va tout simplement se décrocher des choses, arrêter de s'intéresser aux choses. Et en fait, c'est aussi ça qui est important, parce que moi, j'ai grandi avec les films que mon père m'a montrés, mais après, j'ai été m'intéresser, j'ai été regarder d'autres films, d'autres réalisateurs. Et aujourd'hui, je peux parler de cinéma, par exemple, avec mon père. On n'a pas les mêmes opinions, mais pourtant, il va quand même respecter mon avis.
Mais moi, je pense que les vieux ne sont pas aussi... méchant et bizarre qu'on imagine, tu vois. Je pense que même on est, la plupart des gens sont pris dans cette tornade de consommation et d'être... je sais pas, je trouve que... Enfin, moi, je j'identifie pas du tout ma culture à la culture... à un mec qui gagne des milliers d'argent, quoi. Aujourd'hui, l'argent fait énormément tourner ce monde. Et je trouve que ce que les gens revendiquent la plupart du temps, c'est... On est juste pris comme des acheteurs, en fait. On consomme la musique. Moi, j'ai été voir une fois un concert de L'Homme Pâle et j'ai pas eu l'impression d'aller écouter ce mec faire de la musique. J'étais un chiffre autant dans ses auditeurs sur Spotify et tout que au concert. Genre, le mec n'a potentiellement pas du tout croisé mon regard, tu vois. En fait, je trouve qu'il n'y a plus de rapport à humain entre ce que les gens appellent la culture. Donc, je pense qu'il faut faire attention avec ce qu'on met dans culture. Qu'est-ce que ça représente avant tout? Moi, je trouve que c'est le résultat d'un échange commun, tu vois, qui est là pour nous rassembler, etc.
Ce que j'entends, c'est vraiment une hiérarchie des cultures et qu'il y aurait une hiérarchie entre ce que vous consommez, parce que oui, Diego, tu as parlé de consommation en termes de musique, en termes de fringues, en termes de télé, de lecture, etc. Est-ce que les générations qui vous ont précédé consomment plutôt et l'idée serait que ce que vous consommez ne serait pas valable. Après, Diego, tu as parlé de consommation et j'ai l'impression qu'au final, tu trouves que la manière de consommer la culture, là maintenant, il y a un truc.
Grossièrement, ouais, je trouve que notre culture aujourd'hui, ce que les gens appellent culture, n'est plus identitaire. Alors que je pense qu'une culture représente une certaine identité.
Et du coup, par rapport à ce que Diego vient de dire, je trouve qu'il y a un lien avec ce dont on avait parlé quand on s'était vu la dernière fois, par rapport à la désacralisation des cultures, en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une banalisation des mœurs, en fait. Et comme Diego a dit, on met tout le monde dans le même paquet. Et je pense que c'est aussi une conséquence de la mondialisation, en fait. Et la question, c'est est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, en fait? Et qu'est-ce qu'on devrait en faire, nous, maintenant?
En fait, je pense déjà ça dépend ce qu'on consomme. Mais il y a aussi des contenus qui sont très travaillés et qui sont justement super chouettes à regarder parce qu'il y a plein d'éléments à extraire de ça, plein de super valeurs, plein de questions. Mais les gens, vu qu'ils ont l'habitude de consommer un produit un peu fast-food, on va dire, ils vont pas se mettre à aller chercher plus loin ce que des artistes ont fait. Par exemple, on voit beaucoup ça dans le monde de l'art, où on regarde un tableau, on se dit oh, « j'aurais pu le faire », alors qu'au final, non.
Pour moi, c'est pas forcément mauvais, en fait, d'être dans cette mentalité actuelle de consommation, mais c'est important d'en prendre conscience, en fait, et de savoir aussi prendre du recul par rapport à ça, parce que aussi, au final, je trouve que sinon, on cultive pas la profondeur des choses, en fait.
Pour moi, il y a aucun souci à la consommation actuelle. Je sais pas si elle manque véritablement d'une âme ou tout ça. C'est juste, en fait, je suis là, je fais des choses dans ma vie. Chaque jour, chaque seconde, chaque heure. Et en fait, le problème, c'est que je vais être jugé là-dessus qu'il y a un sens derrière ce que je fais ou pas du tout. Donc, comme le fait que j'ai envie de me poser devant un Marvel qui est grave nul en termes de message et tout ça. Enfin, et c'est juste un film popcorn, quoi. Et ou alors de me poser devant un livre de Céline comme Jean.
Pour moi, il n'y a pas de problème à consommer des produits plus fast-food, mais je dis qu'il ne faut pas non plus s'arrêter à consommer de vrais bons films.
Tu ne crois pas que justement l'industrie, du coup, moi je me suis toujours posé cette question, est-ce qu'elle n'a pas une responsabilité dans les productions qu'elle balance, notamment au public jeune, quoi ?
Si, je suis vraiment d'accord avec ça. En fait, on va introduire des concepts et normaliser des choses. Par exemple, dans les dessins animés, on voit beaucoup des personnages soit très vides pour que le jeune public puisse s'identifier, soit des personnages avec des fonctions, genre lui, c'est le personnage masculin, elle, c'est le personnage féminin, lui, c'est le mec drôle, lui, c'est le mec méchant. Et donc, Je pense que l'industrie a beaucoup à faire à ce niveau-là.
J'ai l'impression que... Enfin bon, c'est parce qu'on est dans le capitalisme, mais il y a vraiment cette volonté d'uniformisation de la société, en fait. Et mais c'est ce que Diego disait, que les cultures sont de moins en moins identitaires. Enfin, je trouve que ça a un lien avec ça, et l'industrie, en fait, joue un rôle hyper important dans ça aussi. Et nous inculque aussi cette, cette mentalité de toujours plus, toujours avoir plus, toujours... avoir plus pour ressembler encore plus aux autres, en fait.
En fait, quand moi, je consomme... Enfin, je pense que l'homme a forcément besoin de créer. Je vois pas le problème que les gens créent.
Mais vendent.
C'est ça, à partir du moment où tu vends... Et... Après, tu peux aussi être remercié, entre guillemets, par l'argent pour ce que tu fais, etc. Mais à partir du moment où tu vends, c'est qu'il y a quand même une intention de faire de l'argent dans ta production. Et bon, moi, je la trouve juste, dans l'essence même de l'œuvre, je la trouve beaucoup moins intéressante. Et
puis, quand elle est vendue ?
Quand elle est faite pour être vendue ? C'est juste, on peut regarder tout ce qu'on veut et ça peut nous évoquer plein de choses, etc. Peu importe le budget qu'il y a derrière, mais bon. Moi, je pense que je kifferai jamais plus de la musique que mon pote Ulysse qui joue devant moi, tu vois.
Radio Esperanza.
Voilà.
À l'abordage.
Alors, dans le... On entend ? Ça va ? Super. Violette à l'abordage. Dans le podcast, on entend Diego, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, qui fait partie du projet, qui est au Rwanda. On entend aussi Ariane, qui a un anniversaire. Dommage, mais on pense à toi. Et on entend aussi Laetitia, qui est une animatrice de chez Ecologique, avec sa casquette philo, qui pose aussi des questions. Et donc, avec les invités qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui, on voulait savoir si vous aviez envie de rebondir. Alors moi, j'ai noté plusieurs trucs. J'ai mis... peut-être pour se croiser avec les idées du musée du capitalisme, est-ce que quand il y a une intention de vendre, c'est plus de la culture, c'est moins de la culture ? Est-ce qu'il y a une hiérarchie ? Donc quand on a parlé de jeunesse et sous-culture, est-ce que la culture doit toujours être porteuse de sens ? Est-ce que l'industrie qui produit de la culture a une responsabilité ? Ça, c'était ce que j'avais noté, mais peut-être vous avez déjà envie de partager quelque chose aux jeunes qui sont à l'initiative de ce podcast.
Bah déjà, bravo, hein, c'est super de vous écouter. On a envie d'en écouter plus. Donc, merci pour votre travail.
Merci beaucoup.
Et ma première question, c'est à quel âge on devient vieux, selon vous, parce que vous parlez des vieux.
À partir du moment où on n'accepte pas de vieillir.
Ok, de vieillir comment ? Du coup, on n'accepte pas de vieillir au niveau du corps, de la santé, du mental, de...
Qu'est-ce que tu... surtout.
De quoi ?
Enfin, je pense du mental, en vrai. Parce que c'est à partir du moment où on sent vraiment qu'il y a quelque chose, qu'il y a une rupture avec la nouvelle génération, quoi. Et qu'on arrête d'essayer de comprendre. C'est là où on peut être qualifié de vieux. Mais moi, je suis pas trop fan de ce genre d'appellation, même si je l'ai beaucoup utilisé dans le podcast.
Non, mais ça va, ça me rassure alors, parce que moi, je fais partie parfois déjà de la catégorie des vieux, tu vois.
Mais moi aussi.
Ah, toi aussi.
Ouais, Céline, j'ai 17 ans. Bon.
T'as 17 ans ?
Oui.
Ah oui, donc t'es vieux ?
Oui, je suis très vieux.
En tout cas, elle a minima 17 ans de vie. Mais nous, en fait, on a un terme pour qualifier les personnes qui sont plus âgées que nous. On dit les aînés. On trouve que c'est un terme qui est un peu qui apporte plus de respect, de considération. C'est-à-dire parce que catégorisation vieux-jeune, justement, ça crée un peu ce clivage, cette rupture. Et donc on préfère dire ça. Et on a au-delà de la rupture, nous on a la question de la transmission qui est hyper importante en fait. Je comprends que les personnes qui sont plus âgées soient plus ou moins réactionnaires, on va dire ça comme ça. Voilà, on voit le boomer en train de dire non, ce que vous faites aujourd'hui, voilà. Je crois qu'il y a le mot décadence qui a été utilisé tout à l'heure. Mais en fait, il y a aussi le mot cyclique qui est revenu. C'est typique en fait de la construction même. En fait. C'est normal que vous, en tant que jeune, vous puissiez apporter autre chose, que vous puissiez culturellement apporter. Bah, c'est une question d'échange aussi. Quoi.
Oui.
Donc je crois qu'il y a une manière de... Il y a moyen de dialoguer en fait, avec ces personnes aussi.
Ben oui.
Plutôt que de se sentir en conflit.
tout à fait. Moi, j'ai expérimenté ça avec mon père, par exemple, où on est vraiment dans ce truc de dialogue, d'échanger des trucs que lui, il aime bien, que moi, j'aime bien, sans trop juger et juste comprendre.
Autre question ?
Moi, alors oui, enfin, juste rester sur cette question des jeunes et des vieux, c'est que j'ai une nièce qui a 17 ans là, et je suis fasciné par la réflexion politique qu'elle a déjà et que je n'avais pas à cet âge-là. Et donc, moi, j'ai plutôt un regard très voilà. Étonné dans le sens positif sur comment la conscience politique, en tout cas sur certains jeunes, certaines jeunes, mais voilà, au-delà de la question climatique, mais la question sociale aussi. Et donc, à titre personnel, même si j'ai passé les 40 ans, je ne suis pas encore à penser que les jeunes de 17 ans sont que des personnes insouciantes. Et donc, de toute façon, moi, je me dis toujours, dès qu'il y a une opposition, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et donc quand dans le podcast vous opposez d'une certaine manière culture et marchandise, oui, tout est possible. Donc évidemment, il y a la culture qui est marchandisée, mais il y a une grande culture qui n'est pas marchandisée. Et donc en fait, souvent, c'est qu'on a tendance à dire que la beauté de l'art, et donc que l'artiste pourrait vivre d'amour et d'eau fraîche, évidemment que non. L'artiste doit vivre, et donc évidemment qu'il doit vendre son œuvre d'art. Après, c'est jusqu'à quel point il vend son œuvre d'art. Donc s'il vend pour vivre, c'est tout à fait logique et nécessaire. Après, c'est la logique du profit et donc de reproduire aussi des œuvres qui sont standardisées, avec des messages standardisés, mais il faut absolument que les artistes puissent vivre dignement. Heureusement, en Belgique et dans quelques pays dans le monde, ils sont soutenus par l'État. Mais dans la grande majorité des pays, les artistes n'ont rien pour vivre.
Et en fait, on en a parlé justement dans le podcast, mais ça n'a pas été repris. C'est quand Diego parlait de ce truc de l'art, c'est plus de la culture. Pour lui, si il y a de l'argent qui entre en jeu. Moi, j'étais en contradiction avec lui. Enfin, contradiction. Parce que je disais que l'argent, c'est pas une fin en soi, c'est juste un moyen pour ces gens-là. Parce que on peut pas faire autrement dans une société comme la nôtre, où tu as forcément besoin d'argent pour vivre.
Voilà. Et effectivement, on a isolé de 2 heures d'échange à bâton rompu, c'est 20 minutes. C'était un peu le petit challenge pour pouvoir passer à Radio Esperanza. Donc merci de nous accueillir et de donner la parole aux jeunes. Est-ce qu'Inès, tu voulais encore dire un truc ? Et après, du coup, on a la deuxième partie du podcast.
Moi, je voulais revenir sur... parce que du coup, vous avez évoqué la question du rap. C'est quoi le rap, en fait, pour vous ? D'où ça vient, justement ? C'est ça, en fait. Qu'est-ce que vous savez du rap ? Qu'est-ce qu'il incarne pour vous ? Parce qu'on parlait de le rap. Je sais qu'il y a MC Solar, je crois, qui va être là demain. Vous avez parlé notamment de rap plus profond, du coup, peut-être de rap plus engagé. C'est quoi le rap ? D'où il vient pour vous, en fait ?
En fait, pour moi, je pense que j'en sais plutôt rien, à part que peut-être c'est une sorte de prose, en fait, c'est une sorte de poésie, mais juste on l'écoute d'une manière différente, et c'est un peu nouvelle génération et tout ça, et que c'est là peut-être qu'il y aurait une opposition de nouveau entre alors maintenant les aînés et nous qui sommes plus jeunes. Et voilà, c'est juste une manière de vivre avec son temps, je pense.
Donc si j'écoute du rap, je suis pas une aînée.
Non.
Tu es gentil.
C'est bien. C'est quoi la question encore, désolé.
C'est quoi la définition du rap, en fait ?
Pour moi, le rap. Pour moi, le rap, c'est de la musique. Et ça peut être fait par n'importe qui. Mais de base, ça vient principalement de base, le rap vient d'un milieu défavorisé. Et donc, le rap que j'écoute, moi personnellement, par exemple dans la sphère française, c'est plus des rappeurs comme Népal ou Alpha One qui vont dénoncer, c'est un grand mot, parce qu'au final, ils font juste que parler de la réalité des choses et de ce qui les fâche, mais surtout aussi de ce qui les rend heureux. Je pense que c'est une musique où on peut tirer beaucoup d'émotions, en fait. et c'est super intéressant.
Bon, je vais la faire courte parce que c'est votre émission avant tout, ouais. Mais en tout cas, le rap, au-delà de venir de milieux défavorisés, ça vient aussi de personnes qui vivent dans des milieux défavorisés, effectivement, mais qui sont racisées, en fait. Mm-hmm. La culture rap, en fait, elle vient aussi à la base des États-Unis, elle vient de personnes qui ont besoin d'avoir un espace, en fait, pour exprimer toute la souffrance, en fait, qu'ils vivent. C'est ça, en fait, on oublie parfois c'est quoi l'origine du rap, c'est pas juste... C'est de la poésie, effectivement, il y a aussi de l'émotion dans le rap, mais la base, c'est ça. Et c'est important de pouvoir le rappeler, je pense.
Oui, c'est vrai. Ouais, c'est chouette.
Merci. On fait une dédicace à Ariane.
Oui. Coucou, Ariane.
C'est pas tout à fait une rappeuse.
Non. La jeune qui est dans notre podcast.
Et juste, après l'émission, on a beaucoup discuté musique. Donc,
oui, ouais. Mais c'est pour ça que justement, je voulais m'attarder sur la question du rap, parce que vous en avez parlé. Et puis, voilà.
Et le mot rap, tu sais d'où... Non.
Je sais l'avoir su à un moment donné, mais je ne vais pas dire de bêtises, donc je vais éviter de le dire.
Merci à tout le monde. On continue. On va parler de sous-culture, de consommation, de perte de sens, mais c'est quoi l'appropriation culturelle selon vous ?
Et je vais dire ma définition à moi parce que, enfin, comment moi je l'entends. Déjà, je trouve que c'est important de faire la différence entre appropriation culturelle et appréciation culturelle parce que on peut s'intégrer dans une culture tout en la respectant et en l'appréciant plutôt qu'en se l'appropriant. Donc pour moi, un exemple d'appropriation culturelle, je sais pas si y en a qui ont suivi cette histoire, mais il me semble que Kim Kardashian, une fois, elle avait fait des tresses et elle avait appelé ça Kardashian braids, un truc comme ça. Et ça, par exemple, c'est un très bon exemple d'appropriation culturelle dans le sens où elle reprend quelque chose qui est sacré pour des autres peuples, des autres cultures, qui existent depuis bien plus longtemps que le jour où elle a souhaité en créer ça. Et là, en fait, ça décrédibilise totalement la culture de certaines personnes qui, en fait, aussi servent d'identité, en fait.
Donc, pour mettre les choses au clair, pour que ça soit concret, vu que je comprends... Enfin, c'est juste pour être concret... Donc, la réappropriation culturelle, c'est quand on prend un élément d'une autre culture et qu'on le prive de son sens et qu'on prend juste l'élément sans chercher le sens et le fond de cette chose et qu'on contente juste de la forme. Et donc, c'est pas de la réappropriation culturelle si justement on explique bien d'où ça vient et qu'on est conscient de des valeurs et de l'importance que cette chose a pour une certaine culture.
Pour moi, oui, c'est plutôt ça. Voilà.
Moi, il y avait un vrai, vrai truc que j'ai compris. Parce qu'en fait, pour moi, à la base, c'était... Enfin, en fait, ce truc-là, je l'expliquais à 1000 personnes de cette manière-là, mais bon, ça change rien. Pour moi, ça se passait un peu comme ça, où forcément, il y aura toujours un entre-deux, mais... C'était deux écoles extrêmes où en fait, donc pour moi, il y aurait des personnes noires ou métisses qui vont dire ok, moi je trouve ça vraiment génial et tout, genre ça prend de l'ampleur et tout, et c'est vraiment cool, enfin je trouve que c'est un grand merci et tout ça. Et puis il y avait l'autre école qu'on comprenait pas, qui a posé la problématique de l'appropriation culturelle, où c'était en mode non, moi je suis pas d'accord et tout ça. Et en fait, je pensais que ça se limitait à juste dire voilà, ça c'est ma culture, je suis offusqué et je ne veux pas. Et c'était pas facile. Des fois, ça pouvait pas être facile à comprendre parce que par exemple, pour moi, qui avant était assez fermé comme personne, je me disais ok, en fait, c'est juste des personnes un peu. C'est pas de l'égocentrisme, mais. Fermé et puis c'est tout, on veut pas partager et il y a aucun intérêt. Et puis Ariane du coup m'a apporté ce point de vue là en fait, où c'est pas juste une question de non on veut pas, ça tourne surtout autour du respect.
Et même j'ai l'impression que ça, enfin ce côté culturel, ça existait partout, mais j'ai l'impression que nous en Occident on l'a perdu, enfin ce côté connaître d'où l'on vient par exemple. Dans mon cadre à moi de franco-belge, par exemple, donc je suis belge qui vient de Namur, principalement, et de mon côté français, c'est la Normandie, le camembert qui pue, tout ça.
Et j'ai pas vraiment l'impression de retrouver ce côté on s'intéresse à notre région, on s'intéresse à notre c'est un terroir au final, comme dans d'autres pays font en fait.
Ou à ta culture.
Oui. Au final, moi, je pense que j'appartiens à une culture, hein, mais comme tout le monde. Mais je trouve ça juste dommage qu'on ait nous perdu ce côté-là.
Je me suis souvent posé la question de si en fait j'ai quelque chose à transmettre à mes enfants. Je sais même pas de quelle culture je suis, tu vois. Je suis blanche. Je suis belge. Voilà, je suis de la Wallonie, donc voilà, mais j'ai pas de symbole et je dois créer tout un des références, quoi, tu vois, et je les crée parce que en fait à part, tu vois, ce qui était lié à la religion comme Noël, voilà, mais en fait moi j'ai trop de respect pour les symboles qui sont liés à la religion pour les utiliser n'importe comment. Donc du coup, j'ai presque une culture à recréer avec mes propres références. Et donc j'ai tellement de respect que, enfin, comme tu disais Adrien, au final, moi je me suis dit, mais alors je dois avoir le même respect pour les autres cultures et leurs symboles. Donc, parce que moi je trouve que dans là où je vis et comment, enfin voilà, le milieu dans lequel je vis n'a plus même le terroir. Tu vois, il y a pas une recette autour de laquelle on se réunit. Tu vois.
Mais... Surtout, déjà pour revenir au niveau des fêtes, c'est un truc, j'ai l'impression, dans notre paysage occidental qui nous vient beaucoup des États-Unis au final, où justement, comme eux, nos fêtes au final sont juste un prétexte pour se réunir en famille et se faire une grosse bouffe. Mmh. Et au final, c'est juste devenu juste un moment pour se retrouver. Mais c'est dommage que c'est juste perdu le sens, cette valeur de pourquoi se retrouver. De pourquoi on va fêter, par exemple, des fêtes comme Noël ou comme aux États-Unis Thanksgiving, par exemple. Et ensuite, niveau côté terroir, maintenant, en fait, c'est juste à nous de devoir faire nos recherches au niveau de nos noms de famille et tout. Moi, mon nom de famille, par exemple, c'est Lalou, et ça veut dire... c'est à toi de garder ça dans ta famille, en fait. Et nous, on a gardé ce truc de savoir que Lalou, ça vient d'une ancienne langue et que ça veut dire homme libre, parce que j'ai eu une famille d'indépendants qui savait vivre, qu'on considérait savoir vivre sans un roi, parce que c'était une famille de bûcherons. Par exemple, le nom de famille Lalou, il vient de là, c'est cette origine-là. Et c'est à nous de faire ces recherches-là, alors que j'ai pas l'impression que ça soit... forcément le cas pour tout le monde. J'ai l'impression que pour certaines personnes, c'est vraiment dans leur vie quotidienne.
Moi, c'était juste pour revenir sur un truc que Adrien il avait dit au début, enfin qu'avant toi tu voyais tu pensais que ces gens-là étaient ethnocentrés et tout, et tu disais que c'était juste
aigris,
des gens
en fait,
ouais. Chiants en fait.
Qui, ouais, juste voilà.
En fait, je pense que par rapport à ça, il y a aussi ce truc de se dire bon. Enfin, mais même par rapport à l'Asie, moi je prends l'exemple de l'Afrique parce que j'ai un côté africain, mais enfin, de se dire on a été colonisé, ça veut dire pendant 150 ans on nous a tout pris et maintenant on veut encore nous prendre des choses qui font partie de notre identité, qui nous représentent en fait, et là on est censé encore accepter alors que ça fait des siècles en fait qu'on nous prend tout. Et mais je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui ont la rage en fait, qu'on vienne comme ça, qu'on prenne juste ce qu'on trouve beau, on le prend parce que c'est joli et voilà, on s'en fiche en fait de l'histoire, tant que c'est beau, tant que ça fait l'affaire, voilà, on le prend. Enfin, c'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui ont la rage et je comprends qu'on puisse les voir comme des gens chiants, mais il faut comprendre aussi la réaction, quoi. Enfin, juste, voilà.
Et du coup, ouais, par rapport à tout ça, est-ce que les... Enfin, on peut dire, ouais, les Blancs font par rapport aux cultures qui viennent de l'exemple d'Afrique, en fait, du continent africain. C'était... moi, il y avait un mec qui est super chiant à lire. Ça doit être un super gars et tout. Et du coup, ce mec-là, avec des mots très, très compliqués, au lieu de parler comme nous maintenant, il disait qu'en fait, il y avait un peu ce délire où la mondialisation et la diversité culturelle, ça pouvait être quelque chose de négatif, où en fait, nous maintenant en Occident, avec ce que lui qualifie pas de mondialisation ni d'américanisation, mais de westernisation, il est un peu plus négatif. Mais en fait, on voudrait aller chercher quelque chose qui nous appartient pas, sans se rendre compte, parce qu'en fait, nous, on n'a pas tout perdu, mais on a, il y a plus ce truc authentique en fait, et on serait un peu, ce serait un peu une jalousie ou quelque chose d'assez possessif dont on pourrait pas te donner de nom. Et en fait, il y a une sorte d'admiration négative, perverse en fait, envers les cultures venant, enfin, qui nous appartiennent pas. On est envieux en fait. Ouais, voilà. Je pense que ce serait une partie de la réponse.
Et ça, je pense que c'est aussi dû au fait que, en fait, en Occident, la culture, elle était principalement basée sur le christianisme, en fait. Et on se rend compte qu'à l'heure actuelle, les jeunes, ils sont de moins en moins intéressés par la religion. Et même la religion, elle est de moins en moins ancrée dans notre culture, en fait. Et je pense qu'en fait, quelque part, on est égaré, en fait.
En tant que jeune, comment est-ce que vous incarnez toutes ces luttes ?
Moi, perso, je pense que ce qu'on fait là maintenant, ça sert pas à grand-chose. À part que des jeunes puissent parler de ce qu'ils pensent. Après, est-ce que ça va intéresser des gens ou pas ? Je sais pas si ce sera le cas ou pas, mais bon. Je pense que, tout comme aller en manif, quoi, si tu vas en manif pour changer le monde, t'as pas compris, mec, puisque c'est pas en marchant qu'on change le monde. Voilà. Et moi, personnellement, je pense qu'on pense peut-être un peu trop à ce qu'on devrait penser. Et je pense qu'on devrait plutôt faire ce qu'on pense pour voir si ça marche. Et après, on se dit, oh, c'est bien, ah, ça, c'est pas bien. Enfin, moi, du coup, j'ai voulu faire plein de métiers différents. Architecte, je me suis inscrit à Fleuref en architecture. Bon, au final, c'était pas trop ce que j'imaginais. Quand j'étais plus petit, je voulais faire animateur radio. Voilà. Encore avant, je voulais être pompier. J'ai fait une formation de pompier, et puis je me suis dit... Enfin, c'est dans des circonstances particulières, mais... Enfin, je pense qu'il faut essayer, il faut avoir l'humilité de se dire que c'est peut-être pas la bonne solution, que notre chemin n'est pas tracé dès le début, qu'en fait, on... Moi, je pense que je me suis beaucoup déconstruit, puisqu'en fait, je me suis posé la question de quelle légitimité je pense que je pense, de quelle légitimité je suis. Et de toute façon, la vie, elle est là, quoi. Donc, autant faire quelque chose avec, quoi. Et moi, je voulais pas être un poids pour cette planète, en termes d'écologie, en termes de symbolisme aussi, de qu'est-ce que je renvoie aux gens autour de moi, etc. C'est des questions qui m'ont pas mal aidé. Puis, je pense que la solution, pour moi, elle est dans essayer les idées et regarder en face les solutions, enfin, les réponses de ces questions. Et moi, personnellement, je pense que il faut cultiver la terre. Ouais, en tout cas, c'est comme ça que j'ai trouvé mon échappatoire pour devenir un chouette habitant de cette planète. C'est de nourrir les gens que j'aime. Je pense que c'est pour ça que je revenais sur la lutte. Moi, je pense pas qu'il faut lutter pour un meilleur monde. Je pense qu'il faut construire un meilleur monde.
Moi, je suis super d'accord avec ce que vous venez de dire. Et je pense que tout ça, on arrivera à le faire aussi par l'éducation. Mais je pense que l'éducation, ça se fait aussi par la pensée et des discussions qu'on est en train de faire comme ici. Enfin, notre pensée, elle est déconstruite, donc notre langage va être aussi déconstruit. On va communiquer comme ça avec les autres et ça va permettre, en fait, d'évoluer la mentalité en général des gens, en fait.
N'oubliez pas que vous pouvez avoir l'impression de voir ce que vous n'aimez pas dans la rue ou ce que vous aimez bien dans la rue. Mais n'oubliez pas aussi que vous regardez ce que vous avez envie. N'oubliez pas que ce que vous voyez dans la rue, c'est ce qui vous intéresse. N'oubliez pas qu'il y a des médias.
Si toi aussi, tu as envie de challenger ta pensée et de déconstruire tes idées préconçues, rejoins-nous.
Égologique est une organisation de jeunesse qui réunit des jeunes sous forme de laboratoire créatif citoyen. Plus d'infos sur www.ego-logique.org.
Radio Esperanza.
Violette, toujours à l'abordage pour clôturer notre super émission. Merci à Radio Esperanza. Il y a une personne qu'on a invitée, qu'on n'a pas encore entendue. C'est Gloria. Je te passe le micro, Gloria, ça te va?
Oui, très bien. Et c'était super intéressant de vous entendre parler de ces sujets-là. J'ai aussi quelques petites questions à vous poser. Tout d'abord, par rapport à tout ce sujet de l'appropriation culturelle, moi, en travaillant du coup un peu plus dans les médias, il y a une réaction assez globale qui se passe quand quelqu'un est face à de l'appropriation culturelle. C'est du coup de la cancel culture. C'est quelque chose qu'on voit tous sur les réseaux. Et du coup, ma question, ce serait, est-ce que vous êtes d'accord avec ce moyen de fonctionner pour répondre à la cancel, à l'appropriation culturelle? Et si oui ou non, quelles autres réponses pouvons-nous donner à échelle médiatique?
Moi, personnellement, la cancel culture, au tout début, ça me faisait énormément... on peut dire des gros mots. Ça me faisait énormément chier. surtout... genre avec Seigneur des Anneaux et tout ça, avec un acteur qui est arrivé, c'était un elfe, et du coup il était noir. Mais c'est vrai que dans le monde de Tolkien, on a toujours vu des elfes blancs. Enfin bref, en gros du coup, il y avait un délire de cancel culture où on change le truc. Et en fait, du coup l'acteur était très bon, donc ça m'a pas dérangé, donc c'est bon. Et quand un jour j'ai vu une vidéo, et c'était une petite fille qui était super contente de voir la petite sirène, qui était, donc je sais pas, l'actrice est métisse je pense, et en fait je la voyais, elle était trop heureuse, et puis je vois le papa qui fait « ouais on a gagné tout ça », et en fait voir le fait que les gens sont heureux, ça m'a convaincu, en fait j'ai pas cherché plus loin. Juste j'étais content et j'étais en mode bon en fait si les gens peuvent développer de l'amour grâce à ça, let's go quoi.
Ok, Adrien il est très amour de toute façon. Ah ouais, c'était la fin de notre podcast de terminer par le mot amour. Inès, tu veux il nous reste plus beaucoup de temps, vous nous faites signe quand voilà. Inès,
j'ai plein de choses à dire. En fait, j'aurais voulu réagir sur plein de choses. C'est super intéressant en tout cas ce que vous
tu
avez fait.
Tu peux nous rejoindre à tout moment sur le projet.
C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, j'aurais beaucoup de choses à dire sur ce qui s'est dit ici. Vraiment, c'est un super projet. Donc, si on est déjà presque à la fin, moi, ce sur quoi j'aimerais bien réagir, c'est la question de ça sert à rien de manifester. Ça, non, tu le penses pas au final.
C'est pas moi. Hein.
C'est Diego.
C'est Diego. Ok.
Justement.
Ok, d'accord. Donc. Diego n'est pas là pour pouvoir répondre à ça, mais en fait, c'est, je trouve qu'il y a quelque chose aussi. Il y a quelque chose qui était construire, lutter. Je crois qu'il y avait une différence entre les deux, mais c'est vraiment, je trouve très ancré dans la culture occidentale la question de la binarité en fait. Je veux dire, tu peux construire et tu peux lutter en même temps. Il y a pas de. Je dis pas que c'est.
Non, je sais. Moi, si je pourrais agir.
Ouais, voilà. C'est. Il y a pas de contradiction là-dedans et. Il y a différentes manières de lutter, en fait. Il y a des gens qui peuvent manifester, sortir dans la rue. Tout ça peut se faire ensemble pour pouvoir justement avancer dans les luttes, quoi.
Et surtout, moi, je pense que les manifestations, c'est une super porte d'entrée pour un combat ou quoi, parce que tu permets à d'autres gens qui ne s'intéressent pas forcément au combat d'être exposés à ce message et à ce genre de choses. Et je pense que c'est super important de manifester, entendre.
Le but de nos échanges, c'était aussi de se entrecroiser les points de vue. Celui de Diego, il était que, selon lui, si tu penses que marcher dans la rue, ça va changer le monde, tu te trompes, c'est son point de vue. Après, voilà, c'est peut-être... Lui, en fait, il était vraiment dans l'idée, sortez de vos idées et mettez les mains dans la terre. Voilà,
c'est très bien aussi, mais du coup, ça l'empêche pas de faire les deux. Il y en a qui sont destinés à manifester, il y en a d'autres qui vont faire autre chose, quoi.
Tout à fait. Alors... Gloria, j'ai vu que tu avais noté plein de questions. Est-ce que tu en as encore une ?
Oui, c'est pour revenir sur ce même sujet. Moi aussi, ça a été une de mes grandes questions. Est-ce que vraiment sortir dans la rue, ça va faire changer quoi que ce soit ? Et j'ai toujours été un pas dans le militantisme sans y être vraiment. Aujourd'hui, je travaille avec un média militant, donc c'est différent. Et pour donner mon avis, mais ça va être suivi d'une question, c'est que pour moi, il n'y a pas vraiment de jugement dans la manière dont les gens vont vouloir changer le monde. Mais il y a surtout pour moi une distinction. Il y a la mobilisation personnelle et puis la mobilisation en groupe. Et moi, je sais qu'à titre personnel, j'agis pour un monde meilleur, mais aussi pour mon monde à moi. Parce que malheureusement, comme Diego dit, on ne peut pas toujours changer le monde en faisant à petite échelle, alors qu'à échelle personnelle, ça peut changer quelque chose. Je pense quand même différemment de ça parce que j'estime qu'il y a un vrai effet de groupe qui peut créer énormément de choses et puis c'est brique par brique qu'on crée en fait le monde de demain. Mais maintenant, j'aimerais vous poser la question à vous. Est-ce que vous mobilisez beaucoup plus à titre personnel ou est-ce que vraiment pour vous, c'est l'effet de groupe qui peut changer quelque chose ?
Les deux, en fait. Ça, je pense personnel, ça peut vraiment. Tu peux influencer sur les gens et sur ton entourage. Et au niveau de groupe, c'est, je pense que tu as encore une. Une force, quelque chose qui peut aboutir à montrer aux gens que t'es pas tout seul dans tes pensées, que vous êtes ensemble. Et cet effet de groupe, c'est important, surtout pour changer le monde, parce que on vit tous ensemble. Donc c'est important de faire ça tous ensemble.
Moi, personnellement, je pense que le côté personnel, c'est peut-être plus pour nous-mêmes. Genre, peut-être pour... Enfin, pas être plus à l'aise, mais pour entrer un peu dans un schéma où on sait que grâce à ça, on va réussir à construire des choses, à se mobiliser après en groupe. On sera dans une situation où, un peu comme si on se regarde dans le miroir tous les jours et qu'on se dit « je suis beau, je suis beau, je suis beau », ben on sera beau, on sera beau, on sera beau. Donc, est-ce que si on faisait notre petite mobilisation personnelle pour nous-mêmes, est-ce qu'au final, ça pourrait donner un truc de génial avec un effet de groupe ? Parce qu'après, ben, on se retrouve tous ensemble, quoi.
Ce qui était intéressant aussi dans l'intervention de Ariane, qui était suivie de celle d'Adrien, c'est qu'en fait, dans le fait de prendre l'habitude de déconstruire sa pensée, de prendre conscience de nos privilèges, de là où on parle, de notre point de vue, notre pensée se déconstruit et on peut être perméable à de nouvelles formes de pensée. Et ça, c'est peut-être agir. Et nous, en tout cas, dans l'association où je suis, c'est ce modèle-là qu'on prône. Ça s'appelle le développement moral. Donc, de peu à peu, entre nous-mêmes, en nous fréquentant, en étant en contact avec d'autres modes de pensée, ça va venir déconstruire les petites choses qui peuvent mettre des freins entre les êtres humains et donc qui permettent d'avancer plus ensemble. Et comme tu disais, Adrien, c'est vrai que c'est pas au podcast ici, dans le montage, mais de pas s'offusquer de manières différentes de penser. Et quand on s'habitue à ça, alors on devient beaucoup plus fluide et alors on peut plus profiter de l'effet de force collective, comme tu dis, Jean. En tout cas, nous, notre assos utilise ce genre de fonctionnement pour faire, on s'appelle égologique, donc en partant de nos points de vue personnels à déconstruire au contact des autres, avancer ensemble vers un monde plus solidaire, en tout cas un monde voilà, comme on le voudrait, avec les valeurs qu'on veut mettre dedans.
Et moi, pour juste rajouter, je suis tout à fait d'accord, hein, mais c'est vrai que de toute manière, comme tu viens de dire, ça part du personnel vers le groupe dans tous les cas, sinon on serait juste des moutons sans penser. Mais en fait, au final, quand je parle de mobilisation personnelle, je parle vraiment aussi pas juste de système de croyance, mais d'action. Et on l'a vu avec, je sais plus comment il s'appelle, mais cet homme dans les montagnes en France, dans les Alpes, je pense, qui s'occupait vraiment de migrants qui arrivaient et qui faisait ça à titre personnel. Lui, il a ramené personne dans son groupe, il les accueillait chez lui, il a fini par avoir des procédures judiciaires, bref. Mais ça a lancé un mouvement. Ça, c'est juste, il s'est mobilisé à titre personnel, il a voulu changer ce qui se passait autour de lui. Et ça a mené, que ce soit à son échelle ou à échelle plus grande, à beaucoup d'actions. Maintenant, moi, c'est pour ça que j'y crois aussi à la mobilisation personnelle, c'est que j'estime aussi qu'en fait, il y a un vrai pouvoir à... On peut pas changer le monde, parce que le monde, c'est plein de mondes, en fait. C'est pas juste un monde, c'est pas juste une réalité. Mais j'estime qu'en fait, quand on décide de changer aussi ce qu'on voit autour de nous, ça a un impact, quoi qu'il arrive. Et du coup, en fait, qu'on le veuille ou non, on agit toujours pour le groupe. Mais ça commence par le personnel. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant parfois aussi de questionner à quel point je me mobilise. Est-ce que c'est parce que je suis un groupe ou est-ce que c'est parce qu'à titre personnel, je suis capable de vouloir faire changer ce que je vois autour de moi, parce que le monde, on ne pourra pas changer, mais ce que je vois autour de moi, j'y ai accès.
Oui, Inès ?
Moi, je voulais réagir sur la question... Enfin, je reviens du coup sur la question de l'appropriation culturelle. Je trouvais ça intéressant, en fait, l'exemple qu'elle emploie de Kim Kardashian. C'est le point sur lequel je vais être, parce que c'est un grand sujet. C'est la question, en fait, de à partir de quel moment est-ce que la valorisation, en fait, de cette culture se fait ? C'est-à-dire que la valorisation se fait là parce que c'est en fait une personne blanche qui porte, en fait, ça. Et ça c'est systématique, mm-hmm. quasiment, dans la question de l'appropriation culturelle, c'est que la valorisation, elle vient une fois que c'est validé par la blanchité, en fait.
Exactement.
Sinon, au-delà de ça...
C'était une vraie question, ouais. Pardon de t'interrompre, mais tu ouais. mets valorisation au même pied que validation, ou est-ce que l'un amène l'autre ?
Les deux. Les deux. On valorise à partir de ce moment-là. Du coup, on valide à partir de ce moment-là. Une fois que c'est une personne blanche qui incarne en fait cet élément culturel, quel qu'il soit d'ailleurs, à partir de ce moment-là, on dit ouais, bah, ok, c'est validé en fait par la blanchité encore une fois, qui est donc le système dominé en soi.
Ben non, j'ai pas besoin de micro. Mais... Désolé. Justement, ça revenait dans notre podcast aussi, mais ça a été coupé. Voilà. Mais quoi?
Et est-ce que ces podcasts complets seront trouvables quelque part?
Ah, mais avec grand plaisir. Donc, on a 2 heures d'échange qui ont été enregistrées au Théâtre de Liège. Donc, avec Laetitia, qui est notre animatrice philo au sein de l'association. Et apparemment, il y a un certain engouement pour cette forme de projet. Et donc, on comptait en faire d'autres, sans montage. Du coup, vraiment 50 minutes d'échange sur des thématiques que les jeunes proposent, dont ils ont envie de s'emparer, avec peut-être à nouveau des invités, parce que c'était vraiment super chouette de pouvoir aller se confronter à vos points de vue qui sont plus construits autour de thématiques bien particulières. Et si vous voulez bien, avant de clôturer, j'aurais envie de vous demander quels conseils vous nous donnez pour continuer à nous déconstruire dans cette forme d'expression qu'est le podcast. Est-ce que vous avez des conseils, vous, nos invités, est-ce que vous avez des petits tips à nous donner pour continuer à nous challenger dans la déconstruction de nos pensées?
Eh bien, oui, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, qu'à la fois je comprends et qui, je pense que c'est pas forcément la bonne solution aujourd'hui, c'est que tu as dit quelque chose, Violette, de l'ordre de... Oui, la fluidité dans les échanges et tout ça. Et j'avais lu à un moment donné que la démocratie, c'est l'expression des conflits. Et il faut les conflits s'expriment pour essayer de trouver les résoudre. Mais à vouloir dire que tout va bien ou que tout est cool, tout est fluide, tout ça, et ben du coup, les conflits, ils sont complètement cachés et puis à un moment, ils explosent. Et donc, on est quand même dans un moment où, rien qu'à regarder la Wallonie, c'est la droite qui a gagné et donc le conflit il est là si on a des valeurs de gauche, d'égalité et tout ça. Et donc moi j'aurais envie de vous inviter, et je sais que c'est pas facile, mais c'est de faire des podcasts, aller à la rencontre de gens qui pensent vraiment pas comme nous.
Top.
Ou sinon voilà, on est au village des possibles d'Espéranza qui est un chouette endroit mais qui n'est pas là où on va pouvoir modifier la société.
Merci Thierry.
Thomas.
Oh, Philippe, Thomas, jamais, quoi.
Ça va. Alors, elle me doit une bière. Violette, hein.
Deux bières.
Hein, ça va.
Punaise. C'est pour la valorisation.
On va y arriver.
Inès, j'ai pas oublié.
Merci beaucoup. C'est très gentil. Je me sens presque honorée.
Est-ce que l'un d'entre vous a quelque chose à rajouter?
Ouais. Moi, il y avait un petit passage dans le podcast, du coup, comme disait Jean, qui revenait sur la valorisation et la validation. Et en fait, Ariane disait qu'elle était d'accord avec moi sur un truc, et c'est vraiment là que, en tant que mec qui a été galvanisé par l'extrême droite et tout ça, et que maintenant je puisse m'ouvrir, qui m'a un peu ouvert le cœur, et que j'ai remarqué que, en fait, les gens, du coup, exemple Afrique, donc les gens métis ou noirs, ce sont pas des rageux, ce sont pas des gens ethnocentrés. En fait, elle m'a expliqué que, par exemple, comme pour avec les tresses, il y avait vraiment une historicité forte qui est en lien avec le colonialisme. Par exemple, ça pouvait servir de carte, ou alors ça pouvait juste servir pour
cacher
la nourriture. Et donc, c'est vrai que quand c'est ça, en fait, on comprend, quoi. C'est dingue. Et donc, je trouve que c'est important de partager ce message, quoi. Connaître l'historicité et montrer aux gens que c'est pas juste de l'esthétique.
Gloria, toi, tu avais un petit conseil à nous donner?
Pour moi, ce qui m'a toujours permis de me re-questionner et ce que je trouve super important, c'est de ne pas avoir peur d'avoir tort et de se faire confronter. Parce que on a beau mettre l'ego toujours comme protection, je pense que c'est la plus belle chose qui peut nous arriver. Et du coup, ce serait vraiment ça en premier. Et le deuxième conseil, ce serait de ne pas être dans le jugement de l'autrui constamment, mais plutôt dans le partage.
Ok. Kiki, un conseil technique ?
Technique, peut-être pas ici maintenant, mais moi je trouve que le travail, comme l'a salué Thomas-Philippe Thierry, était super. Je trouve que c'est des initiatives qui amènent une autre paire de lunettes pour regarder le monde. Et j'avais envie de corroborer ton propos en disant diverses réalités peuvent vivre en parallèle et on n'est pas obligé d'avoir quelqu'un qui est d'accord. C'est un peu quelque chose qu'on oublie dans l'inconscient collectif, qui n'est peut-être pas forcément de l'ego trip, mais c'est ok que ce soit pas ok, et c'est ok qu'il y ait plusieurs réalités qui soient en convivence, avec des guillemets.
Exactement, et je pense que c'est ce qui se dit aussi dans le podcast. J'aurais pas de conseils techniques à rajouter ici, mais on l'a entendu au tout début, c'est la question de l'échange culturel. Cette importance, échange, ça veut dire savoir écouter les autres, en fait, savoir implémenter en fait dans ce qu'on construit aussi les idées des autres. Et les idées des autres, c'est pas les changer, les modifier ou parler à leur place, c'est aller à leur rencontre, comme vous le suggérez notamment Thomas-Philippe Thierry. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est un super projet. J'espère que vous allez le faire grandir et grandir avec aussi, surtout. Manifestement, ça a eu de l'impact sur toi, donc.
Ouais.
Et donc,
sale raciste.
C'est quelle bienveillance. J'avais une question tout à l'heure pour savoir où on peut vous retrouver. Si dans l'avenir, on peut écouter les sons quelque part ailleurs que ceux d'aujourd'hui qui seront sur radioesperanza.be, toutes les radios partenaires, réécoutables en podcast, Facebook et Instagram, vous serez partout. Mais est-ce qu'on pourra vous écouter peut-être dans la version longue sur d'autres plateformes ? Et si oui, lesquelles ?
On est en train de... Donc, je peux éventuellement laisser des petites cartes de visite ici au stand de la radio s'il y en a qui sont intéressés de nous rejoindre. On a un site internet www.ego-logique.org. Et en fait, on est en train seulement maintenant de... Puisque c'est en fait le bébé projet, il était fait pour Radio Esperanza. Et donc,
quel
merci.
Honneur.
Donc merci. Et donc après, on est en train de réfléchir à faire des stickers avec des QR codes, voilà. Et à faire des formules qui ne sont pas coupées, donc d'une seule traite, qu'on va faire héberger, a priori, sur Spotify, Insta. En fait, on va essayer de... Moi, je suis comme toi, je fais la maïzena aussi, donc je facilite. Et peut-être si eux ont envie de s'emparer de notre Insta ou de notre YouTube, seront les jeunes qui seront au pouvoir.
Perratamos.
Voilà, exactement. Merci en tout cas, merci de l'accueil, merci à la technique.
Merci à vous. Je me permets d'enchaîner. Donc, on va recevoir The Ace en interview à 16h. Ce sera à l'espace presse avec Charline qui nous fait bien t'ambiancer dans la cale. Et tout de suite, on écoute Catégorique qui sera à la scène Nova à 22h30. À tout à l'heure. Papier, froid, c'est pour